La parole des contes avec Anne Wong.
Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonjour et bon dimanche. Cette fois-ci, je vous propose un conte du Maghreb dans la suite des contes que nous avions vus, le conte type 706, La fille aux mains coupées. Dans cette version, elle n'a pas les deux mains coupées, mais une seule. Ce n'est pas ni son père, ni le diable, ni quelqu'un par ordre de sa mère, mais c'est son frère qui lui coupera une seule main. Elle n'aura pas des mains d'argent, il n'y aura pas de missive substituée, et la main reviendra à sa place pour réaliser réparation. Place au texte, voici Zalgoum, un conte berbère. Alors, comme ils ont coutume, ils commencent par et finissent par « Machao, machao ». Un homme et une femme avaient deux enfants. Une fille, Zalgoum, belle comme le jour avec ses longs cheveux d'or, et un fils qui leur donnait bien des soucis. Car il voulait le voir marié, et lui s'y refusait. Il passait son temps à chasser et à randonner dans la forêt. Un soir, revenant de la chasse, le frère de Zalgoum voulut abreuver son cheval à la fontaine. L'animal refusa d'avancer vers le bassin où il avait pourtant coutume de boire. Le cavalier descendit voir ce qui empêchait sa monture d'approcher. Et il retira un long cheveu souple et blond. La lumière jouait dans les gouttelettes accrochées. Le jeune homme admira longuement, puis prit le cheveu avec soin et le ramena à la maison. Il dit à sa mère, « Mon père et toi me poussaient depuis longtemps à me marier. Eh bien, si tu trouves la femme à qui ce fil d'or appartient, je promets de l'épouser. » La mère, transportée de joie à cette nouvelle qu'elle n'attendait plus, se hâta d'aller le redire à son mari. Puis elle prit le cheveu et, de porte en porte, s'en alla faire le tour des maisons du village. Elle essaya le cheveu à toutes les filles qu'elle y trouva. Mais, à son grand désespoir, il n'alla à aucune. Il était trop long, trop fin, trop clair. Le père, qui attendait le retour de sa femme, fut déçu d'apprendre qu'elle n'avait pas trouvé la fille à qui le cheveu appartenait. « Tu es sûr de n'avoir oublié personne ?» lui demanda-t-il. « Ben, personne, sauf Zalgoum. » « Et si tu l'essayais à Zalgoum ?»« Eh bien, au moins, nous saurions qu'il est inutile de chercher plus longtemps. » La mère fit venir Zalgoum. Elle lui essaya le cheveu. Et il allait exactement. Même couleur, même longueur, même finesse. Les parents étaient atterrés. Leur fils n'allait pas épouser Zalgoum, sa sœur. Le jeune homme bientôt rentra de la chasse. Et dès qu'il fut descendu de cheval, « Alors » demanda-t-il. La mère, redoutant le renoncement de son fils à prendre femme, prit des précautions. « Fils, j'ai visité toutes les filles du village, certaines sont très belles et leurs cheveux ressemblent à celui-ci. Il lui ressemble. Et après ? » Mère, que se passe-t-il ? Tu sembles affolée. Aucune n'a les mêmes cheveux, sauf... Ah, il y en a donc une. Eh bien, dis-moi qui elle est et je l'épouserai. Zalgoum. Et il y a beaucoup de filles belles et sages au village. Les cheveux de quelques-unes ne sont pas tellement différents de celui-ci.
Non, mère. J'ai juré d'épouser la femme à qui ce cheveu appartient. Je ne me dédirai pas.
L'amir dit que c'était impensable, impossible. Il ne voulut rien entendre.
Je ne me parjurerai pas.
Les préparatifs du mariage commencèrent. À Zalgoum, ils apprirent que son frère allait se marier, sans dire avec qui. La mère commença par le trousseau de la mariée. Chaque fois qu'elle allait acheter un habit, elle le faisait essayer à Zalgoum. Les robes, la fiancée de ton frère a juste ta taille, lui disait-elle. Les souliers, la fiancée de ton frère a ta pointure. Les bijoux, la fiancée de ton frère a même tour de cou, même rondeur de bras, même cheville que toi. Quand Zalgoum demandait qui était la fiancée de son frère, la mère détournait la tête et ne répondait pas. Quand le trousseau fut prêt, elle dit à Zalgoum, « Prends cette argile et va enduire le mur de la chambre de ton frère. » Zalgoum se mit à l'ouvrage. Pendant qu'elle pétrissait la pâte blanche, une hirondelle vint à passer. « Eh, piou, 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 si tu me donnes un peu d'argile pour mon nid, je te dirai qui ton frère va épouser. »«
Oh, que m'importe de savoir qui mon frère épouse. Il va se marier et ça me suffit. »
Quand la chambre fut prête, la mère demanda à Zalgoum de trier le blé pour la fête. Zalgoum prit le plat d'alfa. Une corneille traversa le ciel.
« Croix, croix, quelques grains de blé pour mes petits, croix, croix. Et je vais te dire qui est la fiancée de ton frère. »«
Oh, passe ton chemin, » dit Zalgoum, « et laisse-moi, j'ai fort à faire. »
Quand le blé fut trié, on le porta à moudre. La mère donna alors la farine à Zalgoum.
« Tiens, roule-nous du couscous pour la fête de ton frère. »
Zalgoum, installé devant le grand plat de bois, vit approcher une vache.
« Un peu de couscous pour mon veau. Et je m'en vais te révéler qui ton frère doit épouser. »
La jeune fille pensa que tous les animaux tenaient à ce qu'elle sache qui serait bientôt sa belle-sœur. Elle jeta quelques grains à la corneille.
Crois, crois, le blé que tu cries, c'est pour tes noces, car c'est toi que ton frère veut épouser.
Zalgoum, stupéfaite, ne savait pas si elle avait très bien compris. Elle vit repasser l'hirondelle et lui fit don d'un gros morceau d'argile.
Pim, pim, la femme que ton frère va épouser, c'est toi, dit l'hirondelle.
Zalgoum prit une pleine poignée de couscous qu'elle jeta à la vache.
Tu roules le couscous de ta propre fête, Zalgoum. Car la mariée, demain, ce sera toi.
Il n'y avait plus de doute à avoir. Zalgoum laissa là son couscous. Elle alla revêtir des habits de voyage, sortit de la maison, sans être vue. Sans être vue, elle traversa le village, marcha longtemps dans la forêt, jusqu'à une grotte. Elle y entra et de l'intérieur roula une roche énorme pour en bloquer l'accès.
Zalgoum a disparu!
Tous les habitants du village partirent à sa recherche. Son frère, à cheval, partit dans la forêt. Nul ne la trouva. Pendant ce temps, le berger continuait de conduire chaque matin son troupeau de chèvres dans la forêt. Un jour, une chèvre donna des grands coups de corne dans le rocher qui bloquait l'entrée de la grotte. Le berger accourut pour ramener la chèvre au troupeau et il entendit une voix qui sortait de la grotte.
« Ouste chèvre, va de là ! Où la gale te dévorera et va dire à mes pères et mères, Zalgoum, dans la grotte, se taire. »
Il regarda autour de lui, ne vit personne. Le soir, il conta l'aventure à son maître et le lendemain, le maître vint avec lui. La chèvre se dirigea vers la grotte et se mit à donner de grands coups de corne sur la roche qui bouchait l'entrée. Aussitôt, une voix très distincte dit « Ouste, chèvre, va de là, ou la gale te dévorera, et va dire à mes pères et mères que Zalgoum dans la grotte se terre. » Le père aussitôt reconnut la voix de sa fille Zalgoum. « Zalgoum, ma fille, où es-tu ?» Et à l'intérieur, on put entendre « J'étais ta fille, tu étais mon père, mais maintenant, tu es mon beau-père. Ma fille, sors de là et viens avec moi. » Elle ne répondit pas. « Montre-moi ta main que j'y pose un baiser. » Une main sortit par une fente de l'entrée. Il y porta ses lèvres. Puis, ne pouvant rien obtenir d'autre, il s'éloigna. Quand il conta à sa femme qu'il savait où était Zalgoum, qu'il venait d'entendre sa voix et de baiser ses doigts, elle voulut partir tout de suite, mais la nuit tombait et il lui fallut attendre le lendemain. Elle partit dès l'aube avec son mari et le berger. Quand la voix de Zalgoum sortit de la grotte, la mère se mit à pleurer. « Zalgoum, ma fille, c'est moi !» Ta mère, sors de la grotte que je te vois. Tu étais ma mère, mais maintenant, tu es ma belle-mère. Sors, Zalgoum, que je t'embrasse.
Je ne sortirai pas.
Donne-moi au moins le bout de tes doigts, que j'y pose un baiser. Zalgoum, à travers la fente, sortit sa main et la mère se précipita dessus pour la baiser. Puis elle s'en retourna, désespérée. Le soir, elle apprit à son fils que Zalgoum était retrouvé. Il sella de suite son cheval. Il fallut le retenir et lui remontrer que la nuit, la forêt était le domaine des fauves. Ils partirent tous ensemble le lendemain, poussèrent la chèvre tout droit vers la grotte. Aussitôt, la voix de Zalgoum « Ouste, chèvre, va de là, ou la gale te dévorera, et va dire à mes pères et mères que Zalgoum dans la grotte se terre. »«
Zalgoum, dit le jeune homme, sors de là. »«
Non.
Tu ne veux pas revoir ton frère ? » ?»«
Autrefois, tu étais mon frère, oui, mon frère. »
Mais aujourd'hui, tu es mon mari.
Donne-moi du moins tes doigts à baiser.
Zalgoum, confiante, sortit sa main. Un bref coup de sabre et la main s'en alla voler dans l'air, puis retomba dans l'herbe, loin de la grotte. Le frère se précipita et s'en empara.
Zalgoum hurla très fort. « Tu m'as trahi ! Dieu te punira ! Il te plantera dans le genou une épine que nul homme, nulle femme au monde ne pourra jamais enlever que cette main que ton sabre vient d'arracher à mon bras !»
Le frère sauta sur son cheval et partit à fond de train. Arrivé à la fontaine d'où jadis il avait retiré le cheveu d'or de Zalgoum, il descendit pour y faire boire son cheval. Il allait remonter quand une épine se planta dans son genou. Il essaya de l'extraire et, n'y parvenant pas, se promit de la donner à enlever à sa mère dès qu'il serait entré. En arrivant, il jeta sur le toit de la maison la main encore toute sanglante de Zalgoum.
Les neiges et le soleil la décharneront, se dit-il, ou bien les oiseaux rapaces l'emporteront.
Le soir, une forte fièvre le prit. La mère, ni le père, ni aucun des habitants du village ne réussit à enlever l'épine qui de jour en jour grossissait et s'incrustait plus savant dans la rotule. On fit venir des praticiens des villages, puis des pays environnants, mais aucun n'arriva à faire l'extraction et le genou enflait, devenait énorme et douloureux. Le jeune homme dut s'aliter. Il resta dès lors cloué dans un coin où il geignait nuit et jour, sans pouvoir marcher, ni même seulement faire un mouvement sans crier. Pendant ce temps, la nouvelle qu'une voix mystérieuse sortait d'une grotte de la forêt s'était répandue dans le royaume et parvint jusqu'aux oreilles du prince qui en fut intrigué. Il fit publier qu'il donnerait grande récompense à quiconque ferait sortir de son abri la jeune fille. Une vieille sorcière se présenta qui se fit fort d'y arriver. Le prince lui réitéra sa promesse. « Mais, lui dit-il, je veux être le premier à voir la femme, si c'en est une, au moment où elle sortira.
« Rien de plus facile, fit la sorcière.
Pendant que j'opérerai devant la grotte, cache-toi dans les environs et tiens ton cheval prêt. Dès que la fille sortira, précipite-toi, empare-toi d'elle et emporte-la. » La vieille femme prit de la farine, du sel, de l'eau, un plat à cuire la galette, puis se dirigea vers la forêt. Arrivée devant la grotte, elle creusa un foyer rudimentaire, alluma le feu, puis sur trois pierres plates posa son plat, mais à l'envers, le fond tout couvert de suie vers le haut. Ses gestes étaient malhabiles, ses mains tâtonnaient, s'emplissaient de suie, se piquaient aux épines. Zalgoum, à l'intérieur de la grotte, la regardait. Elle fut d'abord amusée, et puis elle prit pitié de la pauvre vieille, qui visiblement n'y voyait rien. Elle lui cria « Ma mère, tourne ton plat, tu l'as placé à l'envers !»«
Oh, ma fille, dit la sorcière, je n'y vois pas. Avec l'âge, mes yeux se sont usés. Viens m'aider. »«
Et je suis dans une grotte, dit Zalgoum. J'ai peur d'être enlevée si je sors. »«
Eh, qui t'enlèvera ?» fit la sorcière. « Tu vois bien que nous sommes seuls ici. »
Zalgoum regarda d'un côté, de l'autre, par les fentes de la grotte, et, ne voyant personne, elle sortit. Elle prit le plat, le renversa, y déposa la galette.
« Maintenant, vieille mère, tu n'as plus qu'à surveiller ta galette jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Moi, je rentre dans ma grotte. »
Le prince, aussitôt sorti de sa cachette, fondit sur Zalgoum. Zalgoum se mit à se débattre.
« Tu m'as trahi, vieille femme !»«
Qui que tu sois, lui dit le prince, tu n'as rien à craindre. Il ne te fera fait aucun mal. Je te demande seulement de me suivre dans ma maison. » Zalgoum, se voyant prise, regarda le prince. Elle vit qu'il n'avait rien d'effrayant. Aussi accepta-t-elle de le suivre. Il l'installa dans la plus haute pièce du palais et comme il voulait l'épouser, il interdit que quiconque montât la voir avant le jour des noces. Dès que Zalgoum était arrivé, la sorcière avait fait courir le bruit de l'expédition réussie et de la merveilleuse beauté de la fille qu'il avait ramenée. Les autres femmes du palais devinrent jalouses. Elles désiraient la voir, passer outre aux ordres du prince. Elles ont profité d'un jour qu'il n'était pas là pour monter jusqu'à la pièce où Zalgoum était enfermée. Elles virent que la sorcière avait dit vrai. L'une d'elles remarqua que la jeune fille tenait toujours une de ses mains cachée sous la manche. Elle observa et découvrit que Zalgoum avait un bras sans main. Dès qu'elle sortit, elle mit au courant les autres femmes et elles restèrent à se demander comment le prince pouvait vouloir épouser une manchotte. C'est qu'il ne le sait pas. Elle tient toujours sa main cachée dans sa manche. Elles cherchèrent un moyen d'en répandre la nouvelle sans que le prince sût qu'elles étaient montées voir Zalgoum. À force de réfléchir, elles trouvèrent. Une a dit au prince, « C'est bientôt la fête. Nous allons nous teindre les mains au aîné. Votre fiancée serait sans doute heureuse de venir s'en appliquer avec nous. » Le prince alla en aviser Zalgoum, qui comprit. Et la perfide dit, et d'où ça venait? Aussi, elle répondit au prince, « C'est toujours la nuit que je me teins, car ainsi le aîné a le temps de prendre. Qu'on m'apprête la teinture, je me l'appliquerai ce soir. » Les dames du palais furent désappointées, surtout celles qui avaient espoir de gagner la faveur du prince. Aussi, imaginèrent-elles un autre stratagème. Elles allèrent de nouveau trouver le prince. « Pour la fête, nous avons décidé de vous tisser chacune un manteau d'apparat. Nous verrons qui de nous fera le plus beau. Ah. »« Votre fiancé, ajouta l'une des femmes, voudra certainement se joindre à nous. Cela nous occupera pendant que vous serez à la chasse. Et celle qui aura fait le manteau le plus beau sera honorée et heureuse de vous le voir porter. » Elles se mirent toutes à l'ouvrage. Zalgoum était désespérée. Avec son unique main, elle ne pourrait jamais tisser et broder le manteau du prince. Rentrée dans sa chambre, elle se mit à sa fenêtre et commença à pleurer chaudement. La corneille, à qui elle avait jadis donné une poignée de blé, vint à passer et la vit tout en pleurs. « Mais qu'as-tu donc à pleurer ? » lui demanda-t-elle. Zalgoum lui raconta. « Donne-moi un de tes fils de soie. » dit la corneille, « et je te tirerai de là. » Zalgoum lui jeta un plein écheveau, et l'oiseau partit à tire-d'aile. Il alla droit vers la maison, où le frère continuait de geindre dans son coin, et se posa sur le toit. La blanche main de Zalgoum était desséchée, mais elle était toujours là. La corneille la prit dans son bec, s'en revint. En chemin, elle cueillit l'herbe de guérison. D'une maison, elle emporta un fil d'or. À son retour, la corneille dit « Zalgoum, donne-moi ton bras. » Elle adapta au moignon la main desséchée, la cousit avec le fil d'or, puis frotta la jointure avec l'herbe de guérison. Les doigts recommencèrent à bouger, d'abord avec peine, puis de plus en plus aisément. En même temps, la main reprenait son volume, la peau sa belle teinte rose et blanc. À la fin, Zalgoum tendit le bras, il parut entier, comme si on ne l'avait jamais amputé de la main. Elle se mit à l'ouvrage, travaillant jour et nuit pour finir avant les autres femmes. Elle eut bientôt terminé et exhiba un superbe manteau que le fils du roi préféra à tous les autres. Les femmes dépitées ne dirent rien, mais quelle ne fut leur stupéfaction qu'en montant chez la jeune femme pour voir comment elle s'y était prise, de voir qu'elle avait ses deux mains. Le prince fit publier qu'il allait célébrer son mariage et convia aux cérémonies la foule de ses sujets. Les fêtes furent splendides et durèrent 7 jours et 7 nuits. Par la suite, Zalgoum eut 2 garçons. Elle leur prodiguait tous ses soins et les préparait à succéder à leur père. Quand ils furent grands, ils allèrent un jour trouver leur mère et lui demandèrent pourquoi elle ne les conduisait pas chez ses parents à elle. Zalgoum avait oublié son frère. Elle se mit à se ressouvenir de lui, à la malédiction qu'elle lui avait lancée, et se demandait si elle avait été suivie des fées. Son ressentiment contre son frère s'était amenuisé. Elle dit à ses enfants, « Si votre père nous le permet, nous partirons dès demain. » Les enfants, au comble de la joie, allèrent demander l'autorisation du prince. « Chez vos grands-parents ?» dit celui-ci. « Mais vous n'en avez pas. J'ai tiré votre mère d'une grotte. »
Laisse-nous seulement partir. Notre mère sait où sont nos grands-parents. »
Le prince finit par céder et Zalgoum commença les préparatifs du voyage. Elle prit deux couffins, l'un empli de son, l'autre de pièces d'or. Puis, sur les habits princiers de ses enfants, jeta de l'aide du quenille.
« Pourquoi ? Nous voulons nous présenter dans nos beaux habits chez nos grands-parents. »
« La route est longue, » dit Zalgoum. « Les poussières du chemin risquent de salir vos beaux habits. Et puis, nous pouvons rencontrer des bandits qui voudront nous attaquer s'ils nous voient trop richement habillés. Aussi, nous allons faire semblant d'être des mendiants. Et c'est comme ça que nous allons d'abord nous présenter devant mes parents, car je ne sais pas s'ils se souviennent encore de moi. » Ils marchèrent longtemps, jusqu'au pays des parents de Zalgoum. Zalgoum alla chez une femme du village qui jadis l'aimait beaucoup. Elle se fit reconnaître d'elle, puis lui confia ses enfants. « Mes fils, vous allez rester là, jusqu'à ce que je revienne. Puis, si vos grands-parents me reconnaissent, je reviendrai vous chercher. » Elle prit ses deux couffins et se dirigea droit vers la maison qu'elle avait quittée il y avait si longtemps de cela. Elle fit sa voix dolente. « Pour l'amour de Dieu » cria-t-elle à la porte. De l'intérieur, une voix dit « Va ton chemin, mendiante, et que Dieu te vienne en aide !» C'était une voix de femme. Le frère était donc marié.
« Pour l'amour de Dieu !» répéta Zalgoum. « Donnez-moi n'importe quoi, je meurs de faim !»
La porte s'ouvrit. Un petit enfant apporta un tout petit peu de couscous dans le fond d'une écuelle de bois.
« Dieu vous le rendra !»
dit Zalgoum. En même temps, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dans un coin près du feu, un homme, son frère certainement, était couché sur une méchante natte de peau de mouton et geignait. Un de ses genoux enflés avait pris des proportions énormes. Le frère avait vieilli, maigri. Ses yeux fiévreux étaient enfoncés dans leurs orbites. Lui, jadis, si beau, et qui parcourait à cheval les coins les plus perdus de la forêt. Dans la pièce, il n'y avait que le malade et sa femme. Zalgoum en conclut que ses parents étaient morts. Le cœur de Zalgoum s'émut.
« De quoi souffre ce pauvre homme ? » demanda-t-elle. « Une épine lui est entrée dans le genou il y a de ça des années. Et pourquoi ne l'enlevez-vous pas ? Ah, nous avons tout essayé. Nous avons consulté plus de 10 clercs, fit venir plusieurs guérisseurs. Si vous le voulez, je vais essayer, moi aussi, » dit Zalgoum. « Avant toi, des dizaines d'hommes, parmi les plus habiles, l'ont tenté. Personne n'a pu enlever l'épine. Et toi, pauvre mendiante du bord du chemin, tu veux réussir ?»
Le malade intervint.
« Laisse la mendiante essayer. Ce n'en fera jamais qu'une de plus. Mais, mendiante, je te préviens, une foule d'hommes plus savants et plus adroits que toi s'y sont essayés. En vain. » Tu en seras pour ta courte honte. Tâche au moins de ne pas me faire souffrir. »
Zalgoum s'entoura le visage d'un pan de ses voiles sales et approcha. L'épine fichée dans la rotule et les chairs faisaient une seule masse dure et violette. Zalgoum y porta les doigts de la main qu'un sabre avait jadis tranché et tira. Aussitôt, l'énorme épine glissa et parut au bout du bras de la jeune fille, comme un coin. Le frère, aussitôt, se sentant soulagé, cessa de geindre et commença même à mouvoir le genou. La belle-sœur sanglotait de joie tant elle était convaincue qu'une pauvre mendiante ne pouvait réussir là où tant d'autres avaient échoué avant elle. Zalgoum, pendant ce temps, s'approchait doucement de la porte. Elle allait y disparaître quand le malade, revenu de son étonnement, se ressouvint de la malédiction de sa sœur. « Nulle autre main ne pourra, elle, guérir
que cette main que ton sabre vient d'arracher à mon bras. » Il se mit aussitôt à crier. « C'est elle! C'est Zalgoum! C'est ma sœur! Attrapez-la !» Il essaya de se lever pour se lancer derrière elle et retomba sur sa peau de mouton. Zalgoum courut vers la porte, courut vers la maison où elle avait laissé ses enfants, les reprit, courut dans les rues pour fuir avec eux. Entre-temps, sa belle-sœur avait invité tous les habitants pour poursuivre la femme. Zalgoum courait, plongeait sa main dans un couffin et jetait des pièces d'or. Les villageois essayaient de les attraper au vol, se les disputaient par terre. Des villageois se rapprochaient de Zalgoum. Zalgoum jetait des poignées de son dans les yeux pour les aveugler. À la fin, ils cessèrent de la poursuivre et Zalgoum continua de courir aussi vite que pouvaient ses jambes et surtout les jambes de ses enfants. Ils arrivèrent au palais où le prince les attendait dans l'inquiétude car il savait qu'il avait tiré Zalgoum d'une grotte avec une main tranchée par des sauvages. Aussi il fut soulagé de les voir sains et saufs. Il leur demanda ce qu'ils avaient fait et Zalgoum reprit son histoire. Depuis le jour lointain où, se baignant à la fontaine, elle avait laissé tomber un de ses cheveux d'or. « Après tant d'années, j'ai eu pitié de mon frère, dit-elle, car je savais qu'il souffrait et que seule ma main pouvait le guérir. » Ils continuèrent à mener une vie heureuse avec leurs enfants. Quant à son frère et sa belle-sœur, Zalgoum ne les revit plus et n'entendit plus jamais parler d'eux. Machao, machao. Et mon conte est acabat. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez raté le début, il y a une rediffusion à 19h15. Car l'appareil des contes, c'est tous les dimanches à 13h15 avec une rediffusion à 19h15. À dimanche prochain, si vous le voulez bien. Et nous sommes friands de vos messages, vos retours, vos commentaires que vous pouvez laisser sur direction@radiofmplus.org. Et à dimanche prochain, si vous le voulez bien.